Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là ce matin pour ensemble partager la parole de Dieu. Alors, c'est la base 1 ce matin, c'est la première base, on va parler de la création. Alors, on va remonter très loin dans le temps et on va ensemble regarder ce qu'il en est du ciel et de la terre dans la Genèse, un temps où, en fait, il n'y avait pas, tel qu'aujourd'hui on le connaît, le ciel et la terre qui étaient dissociés. Je ne sais pas si on voit très bien, hein, mais un ciel et la terre où la présence de Dieu est éloignée de nous, quelque part, où Dieu réside dans le ciel et où nous, aujourd'hui nous sommes sur la terre. Mais il y a un temps qui est décrit dans la Bible où les deux coexistaient côte à côte, et c'est le jardin d'Éden. Alors, quand on parle de ces textes, quand on parle de la création, du jardin d'Éden, quand on parle des jours de création, évidemment, c'est un texte fondamental pour la foi chrétienne, mais aussi délicat, où il y a des difficultés dans le texte. C'est un texte difficile à interpréter, à comprendre. Donc évidemment, je viens humblement devant vous vous présenter quelques pistes de réflexion. On ne parlera pas de tous les aspects du texte. On pourrait s'arrêter derrière quasiment chacune des virgules de ce texte, mais on va ensemble relever quelques aspects. On parlera de Dieu, fondamentalement, tout d'abord. On parlera ensuite de la création et du rôle de l'être humain au milieu de cette création. Alors, je vous propose de lire ensemble le texte de Genèse 2, des versets 4 à 18. Le texte sera projeté et je lirai dans la Nouvelle Bible Second. Voilà la généalogie du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne poussait encore. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Mais un flot montait de la terre et en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il y avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour en arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui contourne le pays de Havila, où l'on trouve l'or, et l'or de ce pays est bon. Là se trouvaient aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon, c'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est le Tigre, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Ainsi s'arrête notre lecture. J'ai décidé de m'arrêter là. J'aurais pu aller jusqu'au verset 20. Où c'est une petite section de cette table de la création, ou de ces deux tables de la création que forment Genèse 1 tout d'abord, et Genèse 2, c'est un petit peu comme les deux tables des commandements que Moïse a reçues. Et bien là, on a les deux tables, les deux généalogies de la terre en Genèse 1 et en Genèse 2. Alors, le premier point important que j'aimerais soulever avec vous, c'est qu'on a là une généalogie du ciel et de la terre. Alors, on sait combien une généalogie, c'est important à l'époque. Il suffit de lire le livre des Chroniques. Là, ça sera pour une prochaine étape. Hein. C'est plus trop la base, là. Mais c'est intéressant à lire. On sait combien les généalogies sont importantes à l'époque. C'est quelque chose de très important, de constitutif. On veut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et dans cette généalogie du ciel et de la terre, le premier point à soulever, c'est que c'est Yahvé, le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre ne sont pas le fruit du hasard, mais c'est Yahweh, celui qu'on a chanté à deux reprises, Yahvé avec un W, peu importe, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, c'est Yahweh qui a créé le ciel et la terre. Alors, ça semble anodin de le dire comme ça aujourd'hui pour nous, mais à l'époque, dans le contexte du Proche-Orient ancien, un Dieu qui crée le ciel et la terre, un seul et même Dieu, et qui s'est occupé de créer tout ça, eh bien, c'est complètement extraordinaire. C'est unique dans tout le Proche-Orient ancien qu'il y ait un seul Dieu qui se charge de créer le ciel et la terre. On n'a pas des dieux, mais un seul Dieu qui crée le ciel et la terre. En Genèse 1, vous savez, alors en hébreu, on va parler un petit peu d'hébreu, un petit peu de mots, mais je pense que ça va venir enrichir notre réflexion. En Genèse 1, eh bien, le mot qui est employé pour dire Dieu, eh bien, c'est Elohim. Et Elohim, eh bien, c'est un mot pluriel en soi, comme on a des fois des mots qui ont une entité plurielle. Alors, en Genèse 1, on pourrait croire que c'est des dieux qui ont créé le ciel et la terre. Mais Genèse 2 vient préciser en disant non, non, ce ne sont pas des dieux qui sont à l'origine du ciel et de la terre, mais c'est bien Yahweh Elohim, le seul Dieu d'Israël qui a créé le ciel et la terre. On nous dit aussi au verset 5 que c'est Yahweh qui fait pleuvoir sur la terre. Ça, c'est intéressant aussi de le noter, c'est que ce n'est pas un autre Dieu qui fait pleuvoir sur la terre. Et dans l'histoire d'Israël, Israël va être tenté de croire parfois que c'est un autre Dieu, un Baal, qu'on adorait au 9e siècle avant notre ère, qui faisait pleuvoir sur la terre. Eh bien non, c'est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre qui fait pleuvoir sur la terre. On nous apprend aussi que c'est Yahvé qui fait pousser toutes sortes d'arbres. Alors vous allez me dire, il est un peu lourd, hein, il insiste et il reprend chacun des éléments de la création, mais l'insistance là du texte est voulue. C'est Yahweh qui fait pousser toutes sortes d'arbres. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Eh bien, ça nous dit que lorsque Dieu crée, lorsqu'il crée le ciel et la terre, lorsqu'il fait pleuvoir sur la terre, eh bien, il fait aussi pousser toutes sortes d'arbres. Ça veut dire que lorsque Dieu crée, eh bien, après, il ne se retire pas de sa création, mais il continue à œuvrer dans l'œuvre qu'il a créée. Il continue à travailler, à œuvrer en faisant en sorte que toutes sortes d'arbres soient créés. Et c'est Yahweh qui les fait pousser. Ce n'est pas n'importe quoi. On a appris en biologie hein, qu'une plante, un arbre, elle a besoin de quoi? Je vous écoute. De l'eau, du soleil, peut-être un peu de terre, des nutriments. Eh bien, la Genèse, elle nous donne un nouveau biologie. Une plante, un arbre, ça a besoin de Dieu, tout d'abord. C'est Dieu qui le fait pousser. De l'eau, et du soleil et de la terre. Mais c'est Yahweh qui fait pousser. Dieu est derrière sa création et il continue à œuvrer à travers elle. Alors, pour nous, ça paraît évident, mais en fait, c'est quelque chose de complètement extraordinaire. Dieu crée et ne se retire pas de sa création après l'avoir créée, mais il continue à insuffler, à faire en sorte que les éléments soient. Et c'est vrai que cette création, elle est belle. David, tu ne me contrediras pas en disant que cette création est belle. C'est quoi ça? C'est l'aimant, ouais. Et puis c'est une photo faite par David Rosset qu'il a postée sur Facebook. Sa création, elle est belle, n'est-ce pas? Encore une photo faite par David Rosset. La montagne, les montagnes, elle est belle cette création. Tout ça, donc c'est des photos faites par David Rosset qui ne lui appartiennent plus puisque j'ai pu lui prendre sur Facebook. Mais on voit combien la création est belle. Là, avec le printemps qui arrive depuis hier, là, on se rend compte que cette création est belle, qu'il fait bon, il fait bon vivre dans cette création. Alors, avant d'arriver à l'humain, quelques petites remarques sur ces arbres qui sont agréables à voir, le texte nous dit. Dieu a créé des arbres agréables à voir, ou on pourrait traduire désirables. Ce que Dieu fait, eh bien, c'est beau, en effet. C'est désirable, sur bien des points. Sur bien des plans. On réalise de plus en plus les capacités incroyables qu'a notre création, la création que Dieu a créée pour nous, on le verra dans un instant. La création recèle de bien des mystères et de bien des choses qu'on ne peut pas reproduire. De plus en plus, on s'inspire dans les petites technologies, dans les nanotechnologies, dans tout ça, du modèle de la création, de ce que l'on voit autour de nous. Et bien souvent, c'est difficile de reproduire ce que Dieu a fait à travers la création, tellement c'est précis. C'est rempli d'ingéniosité. Cette création est inspirante. On dit qu'il n'y a rien de plus solide qu'une toile d'araignée que Dieu a créée. Rien de plus solide dans le modèle. On a beau essayer de créer des choses plus solides, rien n'est plus solide qu'une toile d'araignée. Le texte nous dit aussi que ce que Dieu crée, c'est bon à manger. Et c'est vrai que de plus en plus, on a créé des conservateurs, on a créé des plats tout préparés, on a créé bien des choses, nous on crée, Mais on revient de plus en plus aux éléments naturels tels qu'ils nous apparaissent dans la création. On revient au bio, au naturel, aux huiles essentielles. On se rend compte des bienfaits et de la richesse de la création que Dieu nous a donnée. Pour reprendre une des images qui est donnée dans le texte, dans les versets 10 à 14, la nature créée par Dieu est aussi pure que l'or et aussi précieuse que des pierres précieuses. Et au milieu de tout ça, au milieu de cette œuvre qui est magnifique, splendide et qu'on ne peut pas égaler, qu'on ne peut pas reproduire, on n'y arrive pas, c'est un modèle qui est au-dessus de nous, eh bien Dieu a décidé de mettre l'être humain dans ce cadre idyllique. Alors, j'avais déjà parlé dans une prédication de la femme et de la création de la femme, on avait fait toute une prédication rien que sur ça, donc je vais m'attarder aujourd'hui plutôt sur Adam, sur l'être humain Adam. Ce qui est intéressant de dire, c'est que Adam, dans ce texte, n'est pas créé, mais qu'il est façonné. Dieu ne crée pas Adam, il le façonne. Adam, si on devait le traduire un petit peu de manière littérale, est façonné, Adam est façonné de la Adama. Eh bien oui, parce que étymologiquement, dans l'hébreu, Adam se dit Adam, Adam, et la terre, eh bien c'est Adama. Adam, c'est celui qui vient de la terre. Étymologiquement, même dans son nom, on lui dit « tu es en fait le terrien, le glébeux, celui qui vient de la glèbe, le rouge, puisque Adam, c'est le rouge, celui qui vient de la terre. » Donc, il y a un lien entre l'homme et la terre. C'est le terrien, le glébeux, celui qui a été formé de la terre. Alors, il y a évidemment quelque chose qui nous lie là, entre nous sommes issus de la terre, nous sommes issus de la poussière, comme le dit le texte. Ève, elle, juste une petite précision concernant Ève, même si je ne m'attarderai pas sur l'aide qu'est Ève par rapport à Adam, mais Ève est bâtie de la côte d'Adam. Donc Dieu crée le ciel et la terre, mais il façonne Adam et il bâtit Ève. Donc on voit qu'il y a toute une construction, dans l'hébreu, il y a un jeu autour de ça, c'est que nous sommes façonnés et bâtis. Dieu crée de rien les éléments qui nous entourent, mais nous sommes issus. Donc Adam est issu de la poussière et Ève est bâtie à partir d'une des côtes d'Adam. C'est intéressant de voir qu'il y a tout un processus de construction derrière. Nous sommes bien pensés, nous sommes bien créés. Et c'est vrai que nous sommes bien créés. Alors, vous reconnaissez probablement cette œuvre. Elle est belle, cette œuvre. Qu'est-ce que c'est ? La Joconde, oui, la Joconde de Léonard de Vinci, Mona Lisa. Et c'est vrai que cette œuvre est incroyable. De plus en plus, on se rend compte qu'on mène des études sur ce tableau et on se rend compte de la complexité de la Joconde. La Joconde, il y a je ne sais pas combien de vernis qui ont été apposés dessus. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine de teintes qui ont été créées rien que pour créer son visage. Il y a un travail gigantesque derrière. Et c'est une belle œuvre. C'est une belle plante, tout comme vous, tout comme nous, nous sommes des belles plantes. En revanche, je suis sûr que si je vous avais dit que cette œuvre était de David Rosset, tout comme les photos précédentes, vous diriez, c'est vrai, vraiment, David est un bon peintre. David le pasteur, et on ne connaissait pas ce don-là chez lui, c'est un super bon peintre. Mais vous n'auriez pas apprécié toute la qualité de cette œuvre parce que c'est David Rosset qui l'a créée, ce n'est pas Léonard de Vinci. Qu'est-ce que je veux vous dire par là ? C'est qu'on aurait peut-être des raisons de s'enorgueillir de voir combien nous sommes de belles créatures et combien le récit de la Genèse fait de nous des belles créations. Il crée tous les éléments dans Genèse 1 et en arrivant après avoir créé la dame, il dit et il vit que cela était très bon, en effet. Mais il ne faut pas s'enorgueillir. Nous sommes des belles plantes, des belles œuvres, mais toute notre richesse, tout ce que nous valons, nous le devons grâce à Dieu, grâce à l'auteur de celui qui a fait tout ça. Nous n'avons pas à nous orgueillir. Mona Lisa n'est rien, si ce n'est Léonard de Vinci qui l'a créé. Eh bien, de la même manière, nous n'avons pas raison de nous orgueillir. Hein. Des fois, on chante un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, le dimanche matin, « Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. » Bon. C'est vrai, et il faut savoir comment on le dit, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Hein. Dieu est Dieu, on l'a dit, il est bien au-dessus de nous. Il faut voir dans quelle mesure il rêvait du jour où il pourrait nous aimer. Il rêvait de faire la création, de nous mettre au milieu de cette création. mais on n'est pas le nombril du monde non plus. Hein. Nous devons notre gloire de ce que Dieu nous a créé. C'est lui qui nous a créé. Bref, petite parenthèse après avoir juste dit quelques mots sur ce chant, mais on peut le chanter, je ne dis pas qu'on ne peut pas le chanter, mais il faut savoir ce qu'on chante, il faut être conscient de ce qu'on dit quand on chante. On peut dire des choses, mais il faut savoir ce que ça produit en nous. Alors, en effet, Dieu crée l'être humain, et voilà qu'il devient un être vivant. Alors ça, c'est intéressant, cette expression. Nous devenons des êtres vivants. Un lecteur attentif relèvera que, en Genèse 1,30, les animaux, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre a aussi été qualifié d'être vivant. Selon exactement la même expression dans l'hébreu dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce que là, on a un argument pour les antispécistes hein. Vous savez, les antispécistes, ils disent il n'y a plus rien, y a pas de, les humains ne sont pas forcément au-dessus des autres animaux. C'est un animal parmi les autres, mais il n'a rien de plus. Je ne pense pas. Et je vais vous donner quelques arguments pour cela. Ce qu'il faut dire en revanche, c'est qu'en effet, nous appartenons au monde des vivants. Nous appartenons, tout comme les animaux qui sont sur cette terre, nous avons des caractéristiques communes, nous sommes des mammifères, au même titre que d'autres mammifères, mais il y a une spécificité en ce qui concerne l'Adam, l'homme, le premier homme qui a été créé. Dieu insuffle en lui un esprit de vie, un souffle de vie. En hébreu comme en grec, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est impossible de dissocier l'esprit du souffle. C'est le même mot qui est employé pour les deux. Donc Dieu insuffle en lui, souffle, un peu l'esprit qui est là déjà, on le croit. Hein. Il dit « Faisons l'homme à notre image » en Genèse 1. Qui est ce « nous » qui est présent dès le début de la Genèse ? Là, les spécialistes de la Bible ne sont pas toujours d'accord, mais la meilleure proposition qui reste, c'est de dire que quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image » et que c'est un « nous » qui est employé là, eh bien c'est probablement qu'il y a déjà toute la Trinité qui est là à la création. Eh bien, Dieu souffle en l'homme un esprit de vie. On ne peut pas différencier le souffle et l'esprit. Et c'est ce qui nous rend quelque part unique. Dieu a mis en nous ce souffle de vie. Et c'est un don de Dieu, là encore une fois. Des fois, on a l'impression qu'on maîtrise totalement tous les aspects de notre vie. Et puis, il suffit d'avoir un drame, de voir la mort en face pour se rendre compte que c'est un don de Dieu qu'il nous donne et qu'il nous reprend quand il lui semble bon. Mais c'est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Alors, nous sommes appelés à cultiver et à garder ce jardin, au verset 15. Là, il y a des choses aussi intéressantes. Après avoir créé l'homme, Dieu plante un jardin en Éden. Alors souvent on dit le jardin d'Éden, oui, c'est sûr, c'est le jardin d'Éden. Mais il y a une contrée, Éden, une contrée des délices peut-être, il faut traduire comme ça. Et Dieu plante un jardin dans une grande contrée en Éden. Mais Éden, ce n'est pas le jardin d'Éden, ce n'est pas tout Éden. Il y a juste un jardin en Éden. Dieu plante un jardin en Éden et décide d'y mettre l'homme et la femme qu'il avait façonné. Verset 8. On connaît enfin la raison de tout ce travail gigantesque qui a pris du temps, pour ne pas dire des millions d'années, si je ne veux pas me trahir. Eh bien, tout ce travail-là, il a été fait pour l'homme, pour la femme. Cet énorme terrain de jeu et de incroyable qu'est la création a été fait pour l'être humain, pour l'homme et la femme. Un des plus beaux cadeaux que Dieu ait pu nous faire, c'est de nous donner cette création qui nous entoure. Alors, nous ne sommes pas au sommet, même si Dieu voit que c'est très bon en créant l'homme, nous ne sommes pas au sommet de cette création, mais quelque part, nous sommes la raison de cette création. Il ne faut pas se voir au sommet de cette création, mais la raison de cette création. Au verset 15, le texte dit que l'homme est placé pour cultiver et garder le jardin. Alors là, c'est plus que l'ordre qui avait été donné en Genèse 1 d'être fécond, de remplir la terre et de l'assujettir, Genèse 1, 28. Mais il est question de cultiver et de garder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Cultiver, eh bien, le mot qui est là derrière, c'est le mot travailler. Et le mot travailler, il se dit un petit peu, c'est une même racine que le mot esclave en hébreu. Alors, cultiver, c'est travailler. Mais c'est servir la terre, pas la servir. C'est intéressant comme distinction, c'est qu'on est là pour y servir, pour y travailler, pour la servir, mais pas pour la servir. faut que je l'écrive, parce que sinon à l'oral, ça va absolument pas, ça passe pas. Mais on est là pour la servir et pas pour la servir. Je sais pas si ça passe mieux, mais c'est pour ça que je l'ai écrit. Nous sommes appelés aussi à garder ce jardin. À le garder de quoi ? Est-ce qu'on est appelé à le garder du mal ou quoi que ce soit ? Ça semble pas, on n'est pas forcément appelé à garder contre, mais on est peut-être juste appelé à le garder, à le préserver. Derrière la notion de garder, il y a la notion de préservation, de regarder avec attention, de s'en inspirer. Et alors évidemment, de ces deux verbes, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité qui est la nôtre de cultiver et de garder. Et là, quelque chose d'intéressant, c'est que Dieu nous montre la voie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, le premier point, c'est que Dieu plante un jardin en Éden. On pourrait se demander comment le cultiver, comment le garder. Eh bien, celui qui nous montre la voie en termes de l'image qui est employée là, d'horticulture ou autre, eh bien, c'est Dieu le premier qui plante un jardin en Éden. Il nous montre la voie de comment nous devons nous occuper de la création. Et comment il l'a fait ? On l'a dit juste avant, de manière merveilleuse. Eh bien, de cette même manière, Dieu nous invite à cultiver et à garder, à en prendre soin. Et c'est vrai, on l'a dit, que notre création est belle. On l'a dit juste avant, la création que Dieu a faite est merveilleuse, inégalable. Et face à ces belles montagnes, nous, qu'est-ce que nous en faisons ? Qu'est-ce que nous en faisons ? Eh bien, des fois, aussi des grandes montagnes. Des grandes montagnes d'ordures, de déchets. Voilà la manière dont nous, parfois, nous occupons de cette création. Alors vous me direz, non, mais pas en Suisse, on n'a pas ça en Suisse. Non, et c'est vrai, nous n'avons pas ça en Suisse. La Suisse est championne d'Europe dans le tri des déchets. Vous le saviez, ça ? J'ai pris aussi des journaux, hein, la Tribune de Genève. La Suisse est championne d'Europe du tri des déchets. Alors à partir de là, on est super content. On sait très bien gérer nos déchets et on n'a plus du tout à se culpabiliser. En revanche, un autre titre de journal, ici le RTS Info, la Suisse est le deuxième pays qui produit le plus de déchets en Europe. Alors, est-ce que ça suffit de bien savoir gérer ces déchets pour en produire d'autant plus ? C'est un peu la question du jour à 1000 points. La Suisse est championne d'Europe du tri des déchets, mais est deuxième pays qui en produit le plus. Alors, il y a deux dates ici, hein, c'est 2016 et 2014, mais grosso modo, la statistique n'a pas été faite la même année, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de vrai. On voit d'ailleurs ici un article en relation que les Lyonnais ont pris le pli du tri des déchets. Alors on pourrait se dire, oui, nous c'est bon, on n'est pas comme à Genève, on trie, on a nos sacs taxés, on sait trier nos déchets, on sait les gérer. Pour autant, il me semble que dans la production de déchets, le fait de les recycler, ce n'est pas neutre, hein. Quand on met des kilos et des kilos de verre à la déchetterie ou quand on met du plastique, etc., eh bien, ce recyclage du déchet prend aussi beaucoup d'énergie. Ce n'est pas anodin, on n'a pas à se cacher derrière le fait qu'on recycle une partie de nos déchets pour dire qu'on peut en produire beaucoup. Et là, je pense que Dieu, en bon gestionnaire qu'il veut de nous, que nous soyons des bons gestionnaires de ce jardin d'Éden, peut-être nous invite à réfléchir à une manière dont nous consommons, dont nous utilisons les ressources de la terre qui est à notre disposition. Jésus revient bientôt, mais le bientôt commence à durer depuis 2000 ans et on arrive, on attend un bébé. Et moi, je me dis, mais est-ce que c'est le bon choix aujourd'hui à faire que de se dire la terre qui est là, on doit être fécond, se multiplier, et les ressources de la terre vont en diminuant. Donc là, on a des vrais enjeux. Qui me semble que c'est un sujet qu'il faut aborder en Église et peut-être réfléchir à la manière dont nous consommons en plastique, en déchets jetables qui ne sont pas biodégradables au sens strict du terme. C'est une problématique que l'on doit intégrer dans notre réflexion de bons gestionnaires pour être des bons gestionnaires du jardin de Dieu. Alors en conclusion, eh bien, c'est à vous de jouer, à nous de jouer ensemble. Tout d'abord, en remerciant Dieu de la belle création qu'il a faite. Et ça, c'est le premier sujet. J'aimerais pas qu'on reparte ici accablé ou quoi que ce soit. On doit remercier Dieu pour la belle création qu'il nous a donnée, qu'il nous confie et qu'il nous demande de gérer. Il l'a fait bonne, cette création. Il l'a fait riche, diverse, inspirante à tout égard. Et c'est un magnifique cadeau qu'il nous fait là. Un magnifique cadeau dont nous devons être de bons gestionnaires. Alors c'est à nous de jouer en le remerciant pour ce qu'il nous a fait, avec un beau temps aujourd'hui et une belle création qu'il nous a confiée, mais aussi à nous de jouer et se comporter comme des êtres responsables, des créatures qui se comportent en bons gestionnaires. Alors on peut le louer et s'en remettre à lui pour nos gestes au quotidien et essayer de changer nos habitudes, peut-être notamment en termes de déchets. Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, merci pour ce privilège, pour ce beau cadeau que tu nous donnes à travers la création. Un cadeau incroyable, merveilleux, inégalable. Et Seigneur, on veut te dire toute notre reconnaissance pour ça, parce que tu nous fais confiance et tu nous as placés là, au cœur de cette belle création-là. Et Seigneur, nous en faisons partie, nous venons de cette terre-là et nous voulons... Seigneur, nous comporter de manière adéquate pour cela, en tant que des fils de Dieu qui ont compris toute l'importance de bien gérer ce cadeau que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce privilège d'être placé là. Et donne-nous dans nos comportements à des réflexes, à changer nos habitudes en termes de dans la manière dont nous gérons les biens que tu nous as donnés. Merci Seigneur de nous y aider, de nous inspirer là-dedans. Merci parce que tu as mis en nous ce souffle de vie, cet esprit qui travaille en nous, travaille dans nos cœurs. Et je te prie de nous accompagner dans les semaines, dans les mois, dans notre réflexion à ce sujet. Amen.